France Culture.
Bah oui.
La science, c'est QFD. Antoine Beauchamp.
Son nom est LUCA, acronyme anglais pour parler du dernier ancêtre commun universel à tous les organismes vivants. Il est au cœur de l'une des enquêtes les plus fascinantes de la biologie. On en parle aujourd'hui. Depuis le développement de la biologie moléculaire au XXe siècle, on sait que tous les êtres vivants partagent un même code génétique permettant de transmettre les informations entre les molécules qui le composent. Cette unité dans la grande diversité du vivant suggère l'existence lointaine d'un ancêtre commun réunissant toutes ses caractéristiques. Pourtant, il est encore difficile de dessiner le portrait de ce premier ancêtre. Quel âge a-t-il? De quoi était-il composé? Et dans quel environnement s'est-il développé? On tente une ébauche de réponse. LUCA, aux racines du vivant. Bonjour Purificación López García.
Bonjour.
Vous êtes biologiste, directrice de recherche CNRS au laboratoire Écologie Systématique Évolution de l'Université Paris-Saclay. Et bonjour Guillaume Lecointre.
Bonjour.
Vous êtes professeur du Muséum National d'Histoire Naturelle et chercheur en systématique. Bienvenue à tous les deux, bienvenue à vous qui nous écoutez. Vous pouvez comme chaque jour retrouver tous les liens vers les articles qui nous ont permis de préparer cette émission non seulement sur le site de la Science CQFD, mais aussi sur notre compte Blue Sky @ScienceCQFD. Alors, on va parler aujourd'hui de ce dernier ancêtre commun universel et de l'histoire de sa recherche qui va de la théorie de l'évolution de Charles Darwin à la génomique comparative la plus contemporaine. En deuxième partie d'émission, on se penchera sur une étude récente qui propose une nouvelle datation de LUCA et apporte d'autres résultats sur ce très vieil ancêtre. Mais pour bien saisir tous les enjeux de cette aventure biologique et généalogique, on va devoir faire quelques rappels concernant les outils de base qui nous permettent d'aller à la rencontre de LUCA, dont on situe l'existence à plus de 2,5 ou plus de 3,5 milliards d'années. Et ça, c'est la fourchette, voilà, un peu vaste. On va aussi tout simplement devoir faire un peu d'histoire de la biologie, de l'évolution et de la biologie moléculaire. Ça fait donc un programme bien chargé. Alors, je vais commencer, Purificación López García, par une question un peu naïve. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué que ça de dresser le portrait robot du dernier ancêtre commun universel?
Eh bien, parce que c'est loin de nous dans le temps. Donc, il faut savoir que la Terre s'est accrétée, s'est formée il y a environ 4,6 milliards d'années. Et que la vie a peut-être ses origines pas très longtemps après ça, mettons grosso modo 4 milliards d'années, peut-être un peu plus. Et donc c'est des événements qui se sont passés il y a très très longtemps. Et pendant 4 milliards d'années, la vie a évolué sur la planète. On a une grande diversification des lignées, de grands groupes qu'on appelle prokaryotes qui ont des structures cellulaires. Plus simple, c'est le domaine des archées et le domaine des bactéries, des êtres microscopiques. Et puis, on a les eucaryotes, donc les animaux, nous, les animaux, les plantes, les champignons, mais aussi tout un tas de lignées, de protozoaires, d'algues, aussi microscopiques, qui ont comme caractéristique des cellules qui sont en moyenne plus complexes et dont on sait aujourd'hui qu'elles dérivent, qu'elles sont évoluées un peu plus tard et qu'elles dérivent des symbioses entre une archée et une ou plusieurs bactéries.
Voilà, c'est là que la question de LUCA se pose, c'est que si ces trois grands groupes très très différents partagent ces informations-là, ça veut dire qu'il y a a priori à l'origine quelque chose qui a permis cette distinction, cette division en trois grands groupes.
Oui, tout à fait. En fait, l'idée d'un ancêtre commun universel est double. D'une part, c'est une abstraction qui dérive d'une quelque chose d'implicite qui dérive de l'idée de l'évolution biologique, de l'évolution des espèces, de la théorie de l'évolution de Darwin. Si les espèces se transforment les unes dans d'autres espèces, si on va vers l'arrière, on peut arriver à un point où on a une seule espèce ancestrale à partir de laquelle on a une grande diversification d'espèces. Ça, c'est une construction théorique. Après, avec les outils dont on dispose aujourd'hui de comparaison des génomes, on peut avoir accès à des gènes, à des protéines qui sont conservées et dont en analysant la séquence moléculaire de ces protéines, de ces gènes, on peut inférer l'histoire évolutive.
C'est ça qui est beau, donc c'est en regardant le génome, finalement, on voyage dans le temps. Guillaume Lecointre, est-ce que dans l'histoire de la biologie, on a connu une telle abstraction, une abstraction comparative à celle qu'est LUCA?
Oui.
En effet, on pourrait se dire qu'il n'y a pas abstraction plus abstraite. Permettez-moi la tautologie, mais en effet, pour s'en rendre compte, il suffit déjà de considérer sa propre généalogie. Tout un chacun qui nous écoute peut se dire bah, j'ai été curieux de savoir quelle était l'identité de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, de mon arrière-arrière-grand-mère, etc. Et finalement, on peut reconstruire des arbres généalogiques, mais quand on y pense à une seule seconde, ce qu'on trace sur le papier quand on dessine une généalogie, c'est quelque chose de très abstrait, puisque finalement, ses grands-parents et ses arrière-grands-parents ont tous disparu matériellement. Il n'en reste que des traces. Et heureusement, nous avons un état civil qui nous permet de créer la filiation, reconstituer la filiation des individus identifiés les uns après les autres. Alors, arrêtez-vous un seul instant sur l'histoire de Lucas. Il n'y a pas de registre d'état civil. Et ça, Darwin le disait déjà. Il faudrait pouvoir reconstituer le grand arbre généalogique de la vie en entier, mais il n'y a pas de mairie qui a conservé les états civils. Et donc, c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile et on va se fonder sur ce que partagent les êtres vivants d'aujourd'hui. En deux mots, le chat a pavillon de l'oreille et poils. Le chien a aussi un pavillon de l'oreille et des poils. Bon, d'où vient ce partage? Alors, on pourrait se dire, bah, le chat et le chien ont la même chose parce que ils font les mêmes choses dans le même milieu. En gros, le milieu pourrait pétrir, en quelque sorte, les espèces. C'est assez bizarre. Je trouve un ours blanc sur la banquise, là-haut. Ben, il a aussi les poils et le pavillon aux oreilles. Il vit dans un environnement qui n'a rien à voir. Donc, c'est pas la réponse environnementale qui va fournir, qui va nous satisfaire. L'idée qu'avaient eu les transformistes du XVIIIe siècle, là, on peut remonter déjà au XVIIIe siècle, hein, c'était que le partage des traits communs chez des espèces qui aujourd'hui ne se reproduisent pas entre elles, on doit pouvoir sur le plan théorique, comme l'a dit Purification, on doit pouvoir inférer qu'ils ont été légués ces partages par un ancêtre commun. C'est ce que Darwin va appeler l'ascendance commune. Et cette ascendance commune, elle est sur le fondement de la recherche qu'on appelle aujourd'hui phylogénétique. Darwin n'a pas le mot en 1859, mais le mot sera créé par Ernst Haeckel en 1866. La phylogénie, qu'est-ce que c'est? C'est un dessin qu'on va faire sur une représentation, non pas de qui descend de qui, parce que je l'ai déjà dit, les ancêtres ont disparu. Ils sont plus là. Il n'y a pas de mairie qui nous les identifie. Mais c'est qui est plus apparenté à qui qu'un troisième. Et là, en effet, on découvrira que le chat et le chien, partagent ce qu'ils partagent parce qu'il y a eu un ancêtre commun qu'ils ne partagent pas avec le lézard qui, lui, n'a pas de poils et pas de pavillon aux oreilles. La phylogénie, c'est qui est apparenté à qui, degré de cousinage, si vous préférez. Et ça se distingue de la généalogie directe qui n'est pas accessible.
C'est une démarche par inférence, et ça aussi c'est important d'expliquer cette approche-là.
C'est une démarche par comparaison, c'est-à-dire que ceux qui ont les mêmes traits doivent pouvoir les avoir acquis par voie d'ascendance commune, par nécessité théorique, parce qu'on est à l'intérieur de la grande théorie de l'évolution, bien sûr, hein, et que dès lors, c'est ce que possèdent les organismes qui va nous intéresser, et pas tellement ce qu'ils font finalement. Dans un premier temps, j'entends, si on veut construire la phylogénie, on va regarder d'abord ce qu'ils possèdent, on va pas s'intéresser à ce qu'ils ne possèdent pas, on va pas tellement s'intéresser à là où ils habitent, mais dans un premier temps, si on veut construire une phylogénie, c'est ce que les organismes ont qui va nous renseigner sur la hiérarchisation, au sens emboîtement du terme, hein, des partages. Quand je dis ce qu'ils ont, alors à l'époque du XVIIIe siècle, ça pouvait être des organes de l'anatomie comparée, c'est toujours le cas aujourd'hui, je le précise. Mais au XXe siècle, ça sera les gènes, on va en parler tout à l'heure.
On va parler de l'évolution.
Ça sera l'ADN.
Purification de Lopez-Garcia, vous souhaitiez réagir?
Oui, effectivement, on peut comparer. Tu parles d'anatomie comparée. Effectivement, on peut comparer des traits particuliers, mais simplement, ces traits ne sont pas comparables à l'échelle des micro-organismes qui ne possèdent pas les mêmes caractéristiques macroscopiques que des animaux, par exemple. Et on n'a pas un registre fossile très informatif, puisque la morphologie pour les bactéries, pour les archées, n'est pas suffisamment informative. Et donc,
c'est encore plus difficile.
Oui, et donc, heureusement, à partir des années 1970, on a pu montrer, 60-70, que dans la séquence des grandes macromolécules biologiques, l'ADN, les protéines, s'accumulent de l'information évolutive. Et on peut utiliser, saisir cette information évolutive, non pas pour comparer les les animaux entre eux, mais on peut comparer l'ensemble des êtres vivants en comparant des marqueurs moléculaires conservés, des grandes macromolécules conservées qui le sont dans les trois domaines du vivant, les archées, les bactéries, les eucaryotes. Et en faisant ce type de comparaison, on peut essayer de reconstruire cet arbre universel du vivant, cette généalogie de l'enferrer, jusqu'à arriver à un dernier ancêtre commun, dont on a des indices de toute façon, parce que l'ensemble des êtres vivants partagent une même biochimie. Et il est difficile de penser que par hasard, on va faire des protéines, on va utiliser d'abord des protéines comme macromolécules pour faire des fonctions au niveau des cellules, composé à partir des 20 mêmes acides aminés, alors qu'il y en a beaucoup plus dans la nature. L'ensemble des êtres vivants partagent comme matériel génétique des acides nucléiques, de l'ADN, de l'ARN, qui sont fabriqués à partir des mêmes 4 bases azotées, adénine, thymine, guanine et cytosine, ou racile à la place de thymine dans le cas de l'ARN.
ACTG, les
fameuses bases. Donc ACTG, AUGC. Et donc, c'est pas par hasard qu'on arrive, donc on imagine bien qu'on descend tous d'un même ancêtre commun. Maintenant, comment le reconstruire, c'est le problème.
Et parce qu'il n'y a pas de fossiles, là, vous le disiez tout à l'heure.
Il n'y a pas de fossiles, on ne peut pas retracer l'évolution des dinosaures comme on le fait sur des fossiles, évidemment. On ne peut pas faire ça avec l'ensemble des êtres vivants. Et donc, il a fallu effectivement atteindre le monde de la phylogénie moléculaire et l'accès à un grand pan de la diversité du vivant qui nous échappait, qui est la diversité microbienne. Donc, en utilisant ces méthodes de phylogénie moléculaire et les séquençages des gènes et des génomes à partir des communautés naturelles, on s'est rendu compte que la plupart de la diversité du vivant est microbienne. Et quand on est au monde microbien, en fait, en réalité, les plantes et les animaux, nous ne sommes que des anecdotes dans l'histoire évolutive de la vie. Et l'ensemble des plantes et des animaux, c'est des tout petits groupes comparés à l'échelle de l'arbre du vivant. Donc, la diversité, ce qui est frappant, c'est que quand on explore un peu ce monde-là, on est devant un abîme de diversité. C'est frappant. C'est comme avoir un télescope qui nous ouvre la voie de l'univers. On fait la même chose maintenant avec des séquences au monde microscopique. Et donc, on peut tenter de reconstruire cet ancêtre en comparant le contenu génomique, l'ensemble des gènes, des micro-organismes de ces trois domaines du vivant, y compris des organismes qu'on ne peut pas explorer en laboratoire parce qu'on ne peut pas les cultiver, mais qu'on peut étudier à partir du monde naturel.
Guillaume Lecointre, je disais aussi en introduction de cette émission qu'il ne fallait pas confondre le concept de Luca avec l'origine de la vie elle-même. Pourquoi c'est important de bien distinguer finalement ces deux événements-là?
C'est directement lié à la notion de portrait robot. Ça me permet de rebondir sur cette notion que j'aurais voulu justement préciser. C'est que qu'on regarde entre espèces qui ne se croisent pas aujourd'hui entre elles, qu'on regarde le partage de l'anatomie chez des espèces macroscopiques, ou qu'on regarde le partage des gènes, y compris le monde microscopique, ou le partage des molécules, ces partages, on va les hiérarchiser grâce à une figure d'arbre qui ordonne des branches. Et à chaque petit nœud, petit segment nodal de cet arbre, on a des éléments anatomiques partagés par tout ce qui est en aval. Petite branche intermédiaire qui va donc léguer aux branches qui sont en aval les traits que partagent les êtres actuels aujourd'hui. Et l'assemblage de ces pièces qui ont été léguées, c'est ça le portrait robot. C'est un puzzle incomplet. On a une abstraction d'espèces ou de populations. On a une abstraction qui est seulement celle des parties du visage que le commissaire de police aura réussi à inférer sur la tête du meurtrier en ayant recueilli quelques témoignages parmi quelques personnes. Donc cette histoire de portrait robot, elle est importante parce que Lucas, c'est le dernier portrait robot qu'on arrive à reconstituer à partir des êtres vivants d'aujourd'hui. Alors, en l'occurrence, ce dont Purification a parlé, bien sûr, les micro-organismes d'abord. Ce portrait robot, c'est le portrait robot ultime, le plus profond dans le temps, qu'on peut documenter. Et on ne pourra pas vraiment aller plus loin. Voilà. C'est pour ça que le nom de Lucas, c'est The Last Universal Common Ancestor, le dernier ancêtre commun universel. Quand on dit le dernier, c'est notre télescope phylogénétique, il est au bout de sa puissance.
Cette conception de Lucas, ça me fait beaucoup penser.
Il y a peut-être quelque chose avant.
Voilà, ça me fait beaucoup penser à l'astrophysique finalement et à la notion de Big Bang et à au fond diffus cosmologique au-delà duquel on ne peut pas aller. Purification Lopez Garcia, pourquoi il n'en faut qu'un? Pourquoi est-ce que Lucas ne serait pas plusieurs?
Alors, là, il faut vraiment distinguer entre Lucas, cet ancêtre qui est, on pourrait dire, le commun dénominateur à l'ensemble des organismes vivants actuellement, j'entends cellulaires, et les premières formes de vie, qui étaient forcément beaucoup plus simples. Et le problème, c'est que peut-être il y a eu plusieurs départs de vie sur notre planète, mais on n'a accès qu'à cet ancêtre commun universel. Si jamais il y a eu d'autres départs de vie sur la planète, alors il y en a certains, peut-être plusieurs ont contribué à construire cet ancêtre, mais ils ont disparu, il y a eu quelqu'un, c'est Lucas, qui a pris les dessus et dont la diversification a colonisé l'ensemble de la planète. D'autres formes de vie potentielles, si elles n'ont jamais existé, ont été effacées par la suite.
On parle aussi, Purification Lopez Garcia, d'échelle de temps gigantesque. Vous rappeliez tout à l'heure que la formation de la planète Terre, c'est 4,56 milliards d'années à peu près. Et on donne des fourchettes pour Lucas au-delà de 2,5 milliards d'années, ça c'est sûr, et au-delà peut-être de 3,5, 3,7. Pourquoi ces repères chronologiques-là?
Alors, on a très peu d'indices sur la vie passée et ils sont en général, le registre fossile ancien est très ambigu ou pratiquement inexistant, en partie parce que les roches elles-mêmes ont subi une diagenèse, elles ont été refaçonnées par l'histoire géologique de la Terre. Il y a très peu de roches dès cette époque-là qui soient bien conservées, qui n'aient pas subi un métamorphisme très intense. Et alors, les traces de vie disons non ambigu, les plus anciennes connues, c'est des stromatolites fossiles. Paradoxalement, c'est des structures macroscopiques. On n'a pas des microfossiles à l'intérieur. Et c'est des stromatolites fossiles qui viennent de la région du Pilbara en Australie, datant d'il y a environ 3,5 milliards d'années. Il y a d'autres possibles biosignatures isotopiques.
Alors, les stromatolites, faut expliquer ce que c'est.
Les stromatolites, c'est très intéressant parce que ce sont des communautés microbiennes fossilisées, des tapis microbiens fossilisés, et on a encore des stromatolites vivants de nos jours, donc on peut essayer de comprendre comment ils se forment. Donc ça témoigne déjà des communautés microbiennes qui étaient complexes, étaient probablement habitées dans des environnements relativement en surface, parce qu'on trouve aujourd'hui ces microbialites, ces stromatolites dans ce type de système, avec la capacité de certains de ces organismes d'utiliser déjà la photosynthèse, une photosynthèse qui n'était pas encore oxygénique. Il faut penser que pendant la moitié environ de l'histoire de la planète, l'atmosphère n'avait pas d'oxygène. C'est l'activité d'un groupe bien particulier des bactéries, les cyanobactéries, chez lesquelles a évolué la photosynthèse oxygénique, qui ont oxygéné l'atmosphère.
L'oxygène c'était un produit
des déchets, effectivement. Ils sont appris à casser la molécule d'eau, H2O. Ils ont gardé l'hydrogène pour réduire les CO2 et fabriquer de la matière organique et relarguer l'oxygène. Mais avant elles, il y avait d'autres bactéries chez lesquelles a évolué aussi une forme de photosynthèse qui était anoxygénique, ne produisait pas d'oxygène. Donc, effectivement. Mais donc, ces communautés fossiles, stromatolites étant laminés, ça suggère fortement la présence déjà d'une photosynthèse anoxygénique. Et qui dit ça, la photosynthèse, c'est un type de métabolisme qui a évolué seulement chez les bactéries. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà une séparation entre archées et bactéries et qu'il y avait forcément donc des communautés très complexes. Donc ce qu'on accède, à travers le registre fossile, on accède à des traces anciennes qui sont déjà des traces de communautés complexes.
France Culture, la science CQFD, Antoine Beauchamp.
poursuit notre travail d'enquêteur du lointain passé du vivant avec vous, Guillaume Lecointre et Purification Lopez-Garcia. Guillaume Lecointre, alors là, on parlait vraiment de cette échelle temporelle au-delà de laquelle on peut estimer que Lucas est apparu. Je ne sais pas si apparu est le mot le plus adapté, mais en tout cas, si on fait une histoire de cette conception de Lucas, on a parlé de Charles Darwin, on a parlé de Ernst Haeckel, qui s'intéressaient eux-mêmes à cette idée de l'évolution. Est-ce que c'était cette quête d'un ancêtre commun était quelque chose qui les préoccupait ou pas du tout?
Forcément, parce que les scientifiques du 19e siècle, s'insérant dans la théorie générale de l'évolution, devaient forcément se poser la question d'une origine de la vie. Darwin en parle, hein, il parle d'une... c'est un peu un cliché hein, de donner l'expression de la soupe primitive. Évidemment, au milieu du 19e siècle, on avait déjà des microscopes, donc on était conscient d'une vie microscopique, mais elle n'était pas caractérisée comme elle l'est maintenant. La notion de bactérie, Puri nous dira peut-être de quoi elle date, mais en tout cas, on n'a pas vraiment les moyens au milieu du 19e. D'ailleurs, ça va très vite, Darwin, c'est 1859, et Pasteur, les expériences de Pasteur, c'est des années plus tard, 1860. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment concomitant. Ouais. Donc il devait y avoir eu, bien sûr, des organismes dans cette soupe primitive d'origine, mais ce qui est beau comme geste, et que je mentionnerai, c'est simplement cette prise d'autonomie des scientifiques par rapport à leur contexte social, et en particulier leur contexte religieux. Parce que au 19e siècle, on assiste dans différents pays européens à une laïcisation progressive du discours scientifique. Elle est déjà en marche, bien sûr, depuis ce qu'on appelle la science moderne, que les historiens des sciences situent à la fin du 17e. Donc tout le 18e siècle, c'est un siècle de prise d'autonomie. Non pas que les scientifiques veuillent lutter contre la religion, c'est pas du tout leur propos. Ils changent simplement de programme de travail. Ils se disent, on va tenter de comprendre le vivant ou la nature à partir des seules ressources de la nature. Et si on fait appel à des forces ou des explications extra-naturelles, c'est plus notre travail. Alors, les philosophes peuvent s'en occuper, les théologiens peuvent s'en occuper, mais nous, on tient à se restreindre en quelque sorte à des explications naturelles, aux phénomènes naturels. Et donc cette prise d'autonomie, elle va véritablement permettre une montée en puissance des explications scientifiques, parce que c'est assez logique. Si à un certain moment vous butez sur une explication et que vous vous dites c'est la providence qui a pourvu à l'harmonie du monde,
ça simplifie les choses et empêche d'aller rechercher plus loin.
C'est plus la peine d'aller plus loin. Vous avez déjà la réponse. Donc évidemment, les scientifiques étant des gens curieux, sinon ils ne pratiqueraient pas cette activité là. Ça ne les satisfaisait pas. Donc au XVIIIe siècle, des gens comme Buffon, au Jardin des Plantes, là où je travaille, des gens comme Buffon font des travaux sur l'âge de la Terre, par exemple, à partir d'expériences concrètes menées dans des forges où on va porter à incandescence des sphères de diamètre et de composition contrôlées. On va faire ce qu'on appelle des modèles de Terre. Et puis on va mesurer le temps qu'il faut à ces sphères pour que leur croûte atteigne la température ambiante. On va faire une règle de 3 puisqu'on connaît le diamètre du globe réel. Et on va en arriver à faire une inférence, donc une déduction à rebours en quelque sorte de l'âge de la Terre. Et Buffon, la première publication, 1749, il atteint un âge de 45 000 ans. Et en 1751... C'était trop pour les théologiens qui le convoque à la Sorbonne et qui lui demande de récuser publiquement ses résultats. Bon, un premier geste d'autonomie, Buffon récuse parce qu'il est malin. On va dire à ces gens ce qu'ils veulent entendre, mais il continue ses expériences. Donc ça veut dire qu'il continue son cette prise d'autonomie, elle est déjà là. Alors au milieu du 19e, bien sûr. Ce qui est le geste audacieux de gens comme Darwin ou Haeckel, ça a été celui de Lamarck en 1809 déjà, c'est de se dire la vie émane d'une généalogie géante dont on n'arrivera jamais qu'à reconstituer une fraction, mais c'est pas grave. La diversité du vivant va se comprendre à travers cette généalogie géante, et l'intuition de Charles Darwin évidemment va s'avérer fructueuse et confirmé.
Oui, Ficassian López García, ce qu'il faut dire aussi, si on fait cette histoire rapide des sciences du XXe siècle, parce que bon, la biologie moléculaire, c'est quand même aussi un autre tournant majeur dans cette quête d'un ancêtre commun. En quoi finalement la découverte de l'ADN, de l'ARN messager, des protéines, etc., permet de dire de façon certaine que vous, moi, partageons avec des bactéries et des archées un patrimoine génétique lointainement commun?
Bah oui, effectivement, quand on a commencé déjà dans la première moitié du XXe siècle à avoir accès analytique à la biochimie cellulaire, on a compris que on avait les mêmes grands types de constituants des acides nucléiques, que ce soit dans les bactéries ou dans les eucaryotes, des protéines, et encore d'autres composés, polysaccharides, etc. Donc on a caractérisé ces grandes macromolécules du monde cellulaire, du monde organique, et on a compris que les grands mêmes constituants était présent. Cela ne permettait pas d'aller beaucoup plus loin, certainement pas d'établir des généalogies, d'en faire ces généalogies-là. Le déclic s'est produit une fois qu'on a compris que l'ADN, l'ARN, agissent comme de matériel génétique et que en séquençant ces gènes, ces séquences d'hétéropolymères, que ce soit à nouveau les protéines ou l'ADN, on va pouvoir retrouver des séquences des lettres qui forment des mots, si vous voulez, les mots seraient les gènes, et que cette comparaison va nous permettre d'en faire cette généalogie par comparaison. Donc on pourrait se dire, on peut faire la comparaison avec l'évolution des langues, et donc ça c'est assez facile à comprendre, on peut savoir ou inférer facilement, on a en plus la trace parce que le latin était écrit, que les langues dites latines dérivent d'un ancêtre commun dont on a encore la trace qui est le latin, et donc on peut appliquer la même logique évolutive aux gènes et aux protéines qu'ils codent, et donc effectivement appliquer le même type de phénomène évolutif pour comprendre des mutations, etc.
Alors Guillaume Lecointre, ce concept de LUCA, cette dénomination, cet acronyme anglais pour dernier ancêtre commun universel à tous les organismes vivants, qui a été proposé en 1994 et je crois validé en 1996, image il peut nous donner de cet ancêtre commun? Quel est le consensus aujourd'hui sur à quoi ressemble cet ancêtre commun? Est-ce qu'on a déjà des éléments de réponse de façon certaine qui peuvent nous dire il y avait au moins ces éléments-là dans cet ancêtre commun?
Alors, je vais parler sous contrôle de ma collègue, mais et si je fais pas allusion à l'article qui vient de paraître cette année, on en parlera tout à l'heure, mais il y a au moins ce qu'on appelle des voies métaboliques. Il faut le préciser. Des voies métaboliques. Qu'est-ce qu'on entend par là? Pour ceux de nos auditeurs qui ne seraient pas des biochimistes,
il y en a quelques-uns.
Une voie métabolique, c'est une série de réactions chimiques. La plupart du temps, ces réactions sont catalysées par des enzymes et elles sont majoritaires. Elles représentent comme une espèce d'autoroute de réactions chimiques successives. C'est pour ça qu'on dit de voie, voie, parce que EVOIE, ces réactions chimiques se produisent très majoritairement dans un ordre bien précis, une succession de réactions qui va d'un substrat A, une substance, à un produit final, un produit au bout de la réaction, lequel lui-même est impliqué dans un grand circuit de voies. Alors il faut imaginer visuellement un plat de nouilles, un plat de nouilles où un petit peu comme les échangeurs d'autoroute, vous savez, ça va dans tous les sens, ça tourne, ça s'en mêle. Le métabolisme, c'est ça, c'est l'ensemble des réactions chimiques qu'une cellule va réaliser en vertu de certaines fonctions élémentaires du vivant que les cellules, ce qui caractérise la vie cellulaire en fait. L'ensemble de ces réactions qui sont fondées sur quand même une source d'énergie, quelque part. Et puis, quand je disais l'ensemble des réactions, je ne sous-entendais pas qu'elles étaient désordonnées. Au contraire, on les comprend comme étant ordonnées dans une espèce, excusez-moi de la métaphore, entre guillemets, une espèce d'économie de la cellule, en quelque sorte, avec des produits, des substrats, et puis surtout une source d'énergie, bien sûr, et du transfert d'énergie de certaines classes de molécules à d'autres. Je rentre pas dans les détails, mais ce Lucas, il devait avoir une chose est certaine. Il différenciait déjà un intérieur d'un extérieur. Ce qui devait impliquer un potentiel électrique entre l'intérieur et l'extérieur qui n'était pas le même. Pour pouvoir faire des réactions maîtrisées à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, excusez-moi le terme, mais c'est le bazar. Enfin, l'entropie, pour dire un mot savant, mais à l'extérieur, c'est le bazar. On va dire que ce Lucas, si on l'appelle ancêtre commun, c'est un ancêtre commun à la vie cellulaire. Alors, on parlera tout à l'heure de ce que c'est que la vie, mais en tout cas, la vie cellulaire, ce Lucas, c'est bien de ça dont on parle. Après, ça ne veut pas dire que cette cellule, et ça... On en parlera tout à l'heure. Ça ne veut pas dire qu'elle était toute seule.
Il y
a un environnement contraignant, bien sûr. Mais je laisse Puri compléter sur ce
portrait. Oui, Guillaume a parlé de la partie métabolisme. Donc, dans toute cellule, comme dans tout organisme vivant, il y a deux composantes majeures. Il y a toute la partie métabolisme, c'est transformation de la matière et de l'énergie pour faire plus de soi-même. Et il y a une partie informationnelle qui est portée par les gènes et qui, en réalité, garde les instructions pour pouvoir fabriquer les protéines qui vont réaliser toutes ces réactions métaboliques. Eh bien, il se trouve que c'est la partie informationnelle qui est la plus conservée dans l'ensemble des êtres vivants et qui est plus facile et dont la verticalité l'hérédité est plus facile à tracer. Il se trouve que, effectivement, les inférences du dernier ancêtre commun, les toutes premières, portaient sur, grosso modo, quelques gènes très conservés en relation avec la traduction, c'est-à-dire le passage, la lecture des ARN et de l'ADN, mais des ARN très particulièrement vers les protéines. Ça s'est produit dans les ribosomes.
Parce que moi, je me disais, mais alors du coup, c'est quoi la première réaction? Vraiment, cette chose qui a été conservée, transmise, transférée à tous ces groupes vivants?
Oui, donc en fait, il y a une machinerie qui est extrêmement conservée dans l'ensemble des cellules, c'est le ribosome, et c'est la machine qui, disons, lit le monde informationnel porté dans les gènes, et puis transférer l'information par les molécules d'ARN messagers, et vers les protéines. Et donc, cette structure extrêmement conservée, mais il y a d'autres structures extrêmement conservées. Guillaume en a évoqué l'énergie et à travers en particulier l'exploitation d'un gradient chimio-osmotique qui se situe au niveau de la membrane. Et ça s'est fait grâce à une protéine qu'on appelle la TPase. L'ATP est, la molécule de déstockage de l'énergie chez l'ensemble des organismes vivants. Donc ça, c'est un autre élément extrêmement conservé qui témoigne de l'existence d'une membrane à cette époque-là, dont la composition est peut-être encore floue, probablement phospholipide, mais pas très bien définie. Et donc, en fait, le long du temps, on a cessé de complexifier cet ancêtre, parce que on va revenir au papier qui est sorti récemment, mais au départ on pensait à l'époque de Carl Gauss, c'est celui qui a commencé d'abord en 1970, qui a commencé à avoir l'idée de reconstruire un arbre universel du vivant en utilisant de gènes conservés dans l'ensemble des trois domaines du vivant. À l'époque, on ne savait pas qu'il y en avait trois, d'ailleurs. Et donc, pour ça, il s'est servi des gènes d'ARN ribosomiques, donc des gènes du ribosome, ou des parties qui forment le ribosome. Et donc, effectivement, donc c'est quelque chose d'intéressant qu'il a déjà pensé utiliser cette information pour reconstruire l'arbre du vivant.
Bah restez avec nous parce qu'on va continuer d'affiner ce portrait de Lucas et on va parler dans un instant de cette fameuse étude récente qui a réévalué son âge, mais pas seulement. in the Garden of Our Ancestors par Phipsonix, dans la science CQFD sur France Culture. On poursuit notre émission dédiée à cette recherche généalogique complexe à la poursuite de Lucas, ce dernier ancêtre commun universel de tous les organismes vivants. Et pour nous servir de guide dans cette quête, nous sommes en compagnie de Purificación López García, biologiste, directrice de recherche CNRS au laboratoire Écologie Systématique Évolution de l'Université Paris-Saclay, et de Guillaume Lecointre, professeur du Muséum National d'Histoire Naturelle et chercheur en systématique. On en arrive à présent au reportage du jour. On l'a dit, les défis auxquels sont confrontés les biologistes sont nombreux quand il s'agit de faire le portrait de Lucas. Pour le reportage du jour, on se plonge dans la comparaison des séquences ADN nous permettant de construire ce portrait robot. Et on va voir ça avec vous, Bruno Sansini. Bonjour.
Bonjour, Antoine.
Vous êtes, pour retourner jusqu'à Lucas, il faut comparer un grand nombre de séquences ADN pour y trouver des similitudes, mais sur un temps si long, l'évolution peut parfois nous jouer des tours.
En effet. C'est ce qu'a réalisé Patrick Forter, professeur à l'Institut Pasteur et à l'Université Paris-Saclay, pour la protéine reverse gyrase. Cette protéine n'est présente que chez les organismes que l'on dit hyperthermophiles, c'est-à-dire vivant dans des environnements qui dépassent les 80 degrés. Savoir si reverse gyrase était présente chez Lucas nous donnerait donc une information sur l'environnement dans lequel il s'est développé. Pour cela, plus de 370 séquences de reverse gyrase provenant de 247 espèces différentes ont été comparées. Verdict, l'arbre phylogénétique obtenu pour les bactéries et les archées est mélangé, ce qui indique que la protéine n'était certainement pas présente chez Lucas. Mais l'évolution peut aussi nous brouiller les pistes, notamment à cause des transferts horizontaux de gènes qui rendent le suivi sur le temps long plus complexe pour certaines protéines. Le portrait robot de Lucas reste donc encore difficile à établir.
Lucas, donc le dernier ancêtre commun aux trois grands groupes d'êtres vivants qu'on connaît actuellement, les archées, les bactéries et les eucaryotes, c'est quand même assez fascinant de penser à lui, parce qu'on se dit qu'à une époque, il y a une cellule qui a existé, qui s'est divisée en deux, et l'une des cellules filles a donné les bactéries, et l'autre a donné les eucaryotes et les archées. Donc c'est assez incroyable de remonter dans le temps comme ça, de se dire « il s'est passé cet événement crucial ». Alors après, bien sûr, du coup, on essaie de reconstituer à quoi il pouvait ressembler. À partir du moment où on peut comparer les organismes actuels et se dire que les traits communs à tous les organismes actuels étaient déjà présents chez Lucas. Le trait le plus évident, c'est le cogénétique, c'est-à-dire comment les gènes sont traduits en protéines. Et là, c'était un code, il est universel. Du coup, on peut dire que déjà, il était mis en place chez Lucas. Donc il y avait déjà un certain nombre d'éléments fondamentaux de l'expression génétique qui était déjà là, avec les ribosomes pour fabriquer des protéines, un matériel génétique. Il ne faut surtout pas confondre Lucas avec la première cellule. Ce n'était pas les origines de la vie. Déjà un organisme assez évolué, mais jusqu'à quel point il était évolué, c'est ça un petit peu la question qui est en débat.
Et quand vous dites code génétique, c'est les fameux ATCG.
Voilà, c'est ça. Tous les organismes vivants ont un matériel génétique qui est actuellement de l'ADN. À une époque, c'était sans doute l'ARN. Mais en tout cas, il y avait déjà ces lettres, ATGC ou AUGC dans l'ARN. Il y avait déjà leur traduction en acides aminés pour fabriquer les protéines. Donc les acides aminés, c'est la glycine, l'alanine, etc. Il y en a une vingtaine et qui sont représentés par des lettres. Ce qui fait que ce qui est très intéressant, c'est que quand on étudie les protéines à l'heure actuelle, on peut en fait une protéine la représenter par une suite de lettres. C'est l'enchaînement des acides aminés, ça fait une phrase, ça fait un grand mot, disons, une suite de lettres en continu, qui va représenter une protéine. On appelle ça sa séquence. Et donc on peut comparer les séquences de différentes protéines qu'on va trouver chez les bactéries, chez nous, chez les archées, donc, et on va se demander est-ce que cette protéine était déjà présente chez Lucas.
Donc on essaye de refaire le chemin évolutif à l'envers, essayer de reculer dans le temps et de savoir si les protéines qu'on observe aujourd'hui chez les êtres vivants étaient déjà présents chez cet ancêtre commun à toutes les branches du vivant actuel.
Voilà. Alors, par exemple, si on prend, j'ai déjà parlé du ribosome, c'est une énorme machine qui sert à fabriquer les protéines. Ce ribosome, donc on sait qu'il existait déjà chez Lucas. Il y avait une trentaine de protéines du ribosome qui sont présentes dans les trois domaines du vivant, donc qui étaient sans doute présentes déjà chez Lucas. Les organismes actuels ont un plus grand nombre de protéines dans leurs ribosomes. On peut penser que Lucas avait des ribosomes plus petits, mais quand même, ces 30 protéines, on sait qu'elles étaient là. Là, par exemple, j'ai mis l'alignement d'une de ces protéines. On voit qu'on arrive, là, les séquences, les suites de lettres, on voit qu'on arrive à les aligner les unes sous les autres, que ce soit des protéines d'eucaryotes, d'archées ou de bactéries. Et cette protéine-là, aujourd'hui, dans les trois domaines, elle fait la même chose. Elle est située au même endroit sur le ribosome. Donc là, on peut dire, vraiment, elle était présente chez Lucas. Si on prend un exemple, par exemple ici, vous avez un D, et d'un seul coup, sur cette séquence, vous avez un N à la place du D, ça veut dire qu'il y a eu une mutation qui a produit ce changement d'acide aminé. Et c'est en regardant en fait comment ces mutations se sont produites qu'on arrive à reconstituer un arbre et à reconstituer l'évolution des organismes.
Alors justement, on peut remonter à certaines protéines qui étaient présentes ou non chez Lucas. Est-ce que certaines protéines peuvent nous donner des informations sur le mode de vie, l'environnement sur lequel Lucas pouvait être ou ne pas être?
Oui, tout à fait. Alors nous, on a l'exemple très important de la reverse gyrase. C'est une enzyme qui est présente chez tous les organismes vivant à plus de 80 degrés, qu'on appelle hyperthermophile. Elle est également présente chez certains organismes qui vivent entre 60 et 80, mais elle n'est jamais présente chez des organismes qui vivent en dessous. Alors, beaucoup de gens aiment bien l'idée d'une origine de la vie à haute température qui aurait été jusqu'à Lucas. Donc, beaucoup de gens aiment bien l'idée d'un Lucas qui vivait déjà à haute température et qui avait effectivement cette enzyme. Il y a deux papiers qui sont sortis récemment qui ont affirmé que cette enzyme, la reverse gyrase, était présente chez Lucas. Donc nous, on a regardé, parce qu'on est intéressé en ce sens, c'est nous qui avons découvert cette enzyme en parallèle avec une équipe japonaise dans les années 80 en France. On a regardé ce qu'il en était, et là, on a conclu que c'était sans doute pas le cas, parce qu'on n'arrivait pas à distinguer une version archée, une version bactérie. En fait, les deux versions étaient très très semblables, et si on construisait un arbre évolutif, eh bien les différents groupes de bactéries et d'archées étaient mélangés. Alors que lorsqu'on construit un arbre avec une protéine dont on est sûr qu'elle était présente chez Lucas, à ce moment-là, les deux, les archées d'un côté, les bactéries de l'autre, sont vraiment, vraiment séparées. C'est un point important, cette histoire de le fait qu'on puisse distinguer une version d'une protéine présente chez les eucaryotes, chez les archées ou chez les bactéries, ça nous renseigne à propos de Lucas. Parce que si on regarde une protéine comme cette protéine ribosomale ici chez les eucaryotes, on va avoir une séquence très proche chez les organismes, aussi différents que l'homme, une paramécie, une plante, un champignon, etc. Les protéines vont se ressembler énormément. Si on regarde chez les archées, c'est pareil. Si on regarde chez les bactéries, c'est pareil. Donc ça veut dire que, comme on pense que les bactéries et les archées sont là depuis 3 milliards d'années, hein, environ, ou peut-être plus, ça veut dire que depuis plus de 3 milliards d'années, depuis donc le dernier ancêtre commun aux bactéries d'un côté, le dernier ancêtre commun aux archées de l'autre, ces séquences ont très peu évolué. Alors qu'entre les origines de la vie et l'ancêtre commun aux bactéries ou l'ancêtre commun aux archées, elles ont beaucoup évolué. Et en particulier entre Lucas et les bactéries et les archées, elles ont beaucoup évolué. Ça veut dire que la vitesse d'évolution des protéines était plus importante à l'époque de Lucas qu'aujourd'hui.
Comment on explique ça? Ça veut dire qu'on a trouvé une forme stable et du coup les protéines se sont conservées dans cet état plus ou moins sans trop de mutations au cours du temps. Et dans cette période entre Lucas et cette séparation en branches, là au contraire, ça se cherchait un peu, il y avait un peu de fluctuations.
Tout à fait. En fait, à l'époque de Lucas, comme je l'ai dit, on avait déjà les grands mécanismes moléculaires actuels un petit peu en place. Mais l'idée, c'est qu'ils se sont sophistiqués, ils sont devenus plus complexes pendant l'évolution qui a suivi. D'autres systèmes se sont mis en place. Hein. Ce qui veut dire que, à la fois, Lucas n'était pas un organisme très primitif au sens origine de la vie, mais il était sans doute plus simple que les organismes actuels.
Merci beaucoup Bruno Sorsini pour ce reportage. Guillaume Lecointe, moi il y a plusieurs éléments qui m'intéressent dans ce propos de Patrick Forter. C'est notamment la question de l'environnement de Lucas, qui est une question qui est abordée par cette étude dont on va parler, qui est parue en juillet 2024. Et cette question aussi de la vitesse de l'évolution entre Lucas et les premiers organismes vivants qui vont se diversifier. Une vitesse qui est pas facile elle aussi à déterminer.
Alors, tout à l'heure, on parlait de l'afférence de Lucas comme un exercice difficile. On n'a pas donné toutes les difficultés. il y en a deux qui sont énormes. La première, ça a été brièvement évoqué, les possibilités de transfert horizontaux, c'est-à-dire que les micro-organismes pour ce qui relève de leur génome, tout leur génome dans leur entièreté ne sont pas transmis nécessairement verticalement, c'est-à-dire d'une cellule mère à des cellules filles sur le long terme. Il peut y avoir aussi des transferts horizontaux. Ça complique beaucoup le sens qu'on donne aux comparaisons.
Pour donner un cas très concret, par exemple, de transfert de gènes, des bactéries vont devenir résistantes à un antibiotique.
Oui, c'est exact.
Elles n'appartiennent pas à la même espèce.
C'est exactement ça, oui. Les transferts de matériel génétique expliquent en partie la dissémination des résistances aux antibiotiques. Et puis, il y a ça, et il y a les différentiels de vitesse d'évolution. En effet, tout serait au mieux dans le meilleur des mondes si l'accumulation de changements au cours du temps, que ce soit dans l'anatomie, que ce soit dans les génomes, quelles que soient les caractéristiques du vivant qu'on le regarde, ce qu'il porte, si le taux de changement est régulier dans le temps, d'une part, et d'autre part, s'il est régulier entre lignées, eh bien, on est à peu près sûr de pouvoir construire un arbre sans se tromper, si je peux le dire de manière très rapide. Or, ce monde idéal n'est vérifié que dans des petites parties du vivant. De temps en temps, on se retrouve dans un échantillon d'espèces pour lequel ces deux conditions que je viens d'énoncer sont observées, donc tout va bien. Mais plus on élargit le champ, plus on prend des espèces divergentes entre elles, plus diverses entre elles, plus on s'expose à avoir ces deux principes non respectés. Et là, il peut y avoir des erreurs dans les arbres phylogénétiques. Bah oui, les phylogénétiques peuvent faire des erreurs. Je laisse Curie répondre sur l'environnement.
Oui, des erreurs. Et puis, abonder sur un des points, c'est que comme c'est un phénomène, enfin, Luca a existé il y a fort longtemps, le fait que on ait des vitesses d'évolution qui changent, et surtout qu'il y a un temps très long, ça conduit à ce qu'on appelle la saturation mutationnelle, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des mutations à répétition sur une même position, sur un même acide aminé par exemple, ce qui veut dire que par hasard, il se peut que deux espèces partagent le même acide aminé dans une position donnée, alors que c'est le fruit des mutations successives sur cette position-là et pas un vrai héritage commun. Et faire la part des deux est compliqué. Heureusement, on a des outils de plus en plus performants d'analyse et de comparaison des séquences moléculaires qui modélisent ces aspects évolutifs, qui prennent en compte la saturation mutationnelle dans des lignées où on observe, par exemple, une vitesse évolutive plus longue ou dans des temps plus courts.
Sur quoi portent ces observations, justement, pour distinguer ces deux saturations ?
Donc, ça s'est traduit quand on enferme des arbres dans des longueurs de branches plus importantes. Donc, des longueurs de branches plus importantes, en réalité, corrèlent avec un nombre de mutations par unité de temps. Et donc, on peut voir effectivement ces vitesses d'évolution. Et il y a des modèles probabilistes qui permettent effectivement de prendre en compte ces biais entre positions d'un même alignement, entre espèces à travers les branches, les différentes branches d'un arbre, et de corriger jusqu'à un certain point ces possibles biais.
Alors, je parlais de cette étude, et il faut qu'on y vienne, une étude parue en juillet 2024 dans Nature Ecology and Evolution, menée par une équipe de chercheurs britanniques, qui a remis Lucas sur le devant de la scène et qui a fait pas mal de bruit. Alors, il y a pas mal d'études comme ça qui généralement font pas mal de bruit, font pas mal discuter, c'est aussi ça la science. L'âge de Lucas proposé là est de 4,2 milliards d'années, donc 400 millions d'années à peu près la formation de la planète Terre. Lucas aurait un génome codant pour 2600 protéines, ce qui est assez proche finalement des cellules prokaryotes actuelles. Il y a plein d'éléments. Alors, détaillez-nous un petit peu ces résultats, ces propositions faites par cette équipe, et ce que ça provoque comme recomposition dans la conception de Lucas.
Alors, ça rentre dans le domaine du possible et du raisonnable même, d'inférer un ancêtre commun universel qui est assez complexe et finalement un tout comparable à une bactérie ou à une archée contemporaine, tout comme on peut inférer un dernier ancêtre dès l'ensemble des eucaryotes qui est tout à fait comparable à n'importe quel protiste actuel. Parce que c'est en quelque sorte un commun dénominateur. L'intérêt de cette... Après, dater, c'est difficile. Et pour dater, il faut avoir des points de calibration. Et là, on est en défaut parce qu'on n'a pas des microfossiles datés fiables qui nous disent, à ce moment-là, il y avait cette lignée-là. Les dates qui existent, c'est celle de l'oxygénation de l'atmosphère. On pense qu'à ce moment-là, il y avait des cyanobactéries déjà sur la planète. Et après, l'autre date qui s'utilise, date butoir, comme âge maximal, c'est l'impact de la Lune sur la Terre, une époque où on avait un océan magmatique et de toute façon les conditions de la planète n'étaient pas permissives pour la vie. Et donc probablement on ne contraint pas très bien, à mon avis, l'époque où cet ancêtre a vécu. C'est possible, mais il y a une incertitude importante. quant au métabolisme de cet ancêtre commun, il y a certaines inférences, il y a des inférences logiques, le cas de la, mais il y a effectivement des incertitudes dues au fait que le transfert horizontal peut masquer ou peut brouiller un peu certaines pistes. Il faut dire que ces auteurs-là utilisent une méthode un peu plus plus développée, qui est celle de la réconciliation, où on va utiliser des modèles probabilistes pour associer une probabilité à ce qu'un gène existe un nœud précis de l'arbre du vivant, et dans ces cas-là, à l'échelle de Luca. Donc il y a une probabilité qui est associée, ça ne veut pas dire oui ou non, c'est que c'est un modèle probabiliste.
Une très belle étude en tout cas qu'on va vous partager et puis qui fait discuter, qui crée du débat, et ça c'est aussi important quand on parle de recherche scientifique. Et puis Guillaume Lecointre, moi ce que je trouve assez beau aussi dans cette étude, c'est le fait que ça pose la question tout simplement d'une écologie primitive, d'un environnement, et ça réanime un petit peu finalement cette soupe dont on parlait tout à l'heure.
Oui, tout à fait, l'article a quelque chose de joli dans ses conclusions, c'est que il regarde les substances entrantes et les substances sortantes qui serait, comment dire, requise compte tenu des réactions métaboliques qui sont afférées dans cette cellule hypothétique. Et l'étude réinsère Lucas dans un environnement dans un environnement qui est très certainement profond, chaud, faudrait voir, mais profond en tout cas.
Purification, vous n'êtes pas si d'accord que ça, profond.
En fait, ils disent pas, ils donnent pas un environnement précis. Ils parlent soit de l'océan profond, soit de la surface, soit de l'océan peu profond. En fait, c'est difficile à savoir parce que de toute façon, la chaleur interne de la planète, il fallait l'évacuer, et donc on pense que l'hydrothermalisme était généralisé dans l'ensemble de la planète, que ce soit dans l'océan profond, plus en surface. Donc c'est tout à fait possible.
Et pour conclure, du coup, Guillaume Lecointre.
Oui, la partie que j'ai bien aimée de l'article. il y a une inférence sur l'environnement, mais il y a une autre partie, c'est quand je regarde, il y a la figure 2 de l'article où il y a le plat de nouilles de Lucas, c'est-à-dire l'ensemble des réactions biochimiques et métaboliques dont Lucas devait avoir pu disposer. Et finalement, c'est compatible avec des articles que j'ai moi-même publiés sur la question, où c'est pas de l'ADN que j'ai comparé, mais ce sont les réactions biochimiques entre elles. Il se trouve que moi, dans ma carrière, j'ai fait de la phylogénie de voies métaboliques, et je trouve un scénario dans l'ordre de l'apparition des différentes voies métaboliques au cours du vivant. Cet ordre d'apparition, il est plus précis que là, mais il est compatible avec ce que dit donne l'article. Voilà.
Merci beaucoup.
Mais je ne suis pas cité dans l'article.
Écoutez, on va partager vos articles puisque c'est. Ah, merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Purification de Lopez Garcia et Guillaume Lecointre. À présent, il est l'heure de retrouver Alexandre Morales et la chronique Avec Science.
Où la syphilis est-elle apparue ? Pas facile de retracer l'histoire des maladies infectieuses, pourtant écoutez ces quelques mots que Pangloss dit à Candide après qu'il a contracté la maladie auprès de la servante Paquette. Paquette tenait ce présent d'un cordelier très savant qui avait remonté à la source, car il avait eu d'une vieille comtesse qu'il avait reçue d'un capitaine de cavalerie qui la tenait d'une marquise qui la tenait d'un page qu'il avait reçu d'un jésuite qui, étant novice, l'avait eu en droite ligne d'un des compagnons de Christophe Colomb. Voilà ce que disait Voltaire en 1759 dans son Candide, et que d'aventures. Mais ce texte illustre à merveille l'hypothèse colombienne, une théorie qui postule que la maladie a été introduite en Europe après la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb en 1492. Cette hypothèse s'appuie sur des témoignages historiques et comme on peut le voir, elle est très ancienne. Pourtant, cette importation américaine de la syphilis a très vite été débattue. Des auteurs du XVIIe siècle affirment que la maladie serait apparue bien avant en Europe, toujours selon des sources historiques évidemment. C'est l'hypothèse pré-colombienne. Olivier Dutour est directeur d'études à l'École pratique des hautes études et chercheur dans le laboratoire archéosciences de l'Université Bordeaux-Montaigne. Il travaille sur l'évolution des maladies infectieuses au cours des périodes passées.
Historiquement, ce qu'on sait ou ce qu'on croit savoir d'après les textes anciens, c'est qu'il y a eu donc à partir de 1493 une épidémie européenne, notamment lors de la guerre entre la France et l'Italie et le siège de Naples par les armées de Charles VIII, qui est donc un certain nombre d'auteurs ont décrit une maladie apparemment de transmission vénérienne très grave qui correspond à ce que les historiens de la médecine ont rapproché d'une forme particulière de syphilis qui est la syphilis maligne, avec toutes les difficultés qui peuvent exister dans des descriptions d'auteurs qui n'ont pas des connaissances médicales, soit qui ne sont pas médecins, soit qui sont médecins, mais qui n'ont pas des connaissances médicales modernes, si vous voulez. Les textes historiques n'ont pas résolu, si vous voulez, la question.
Les sources historiques sont donc insuffisantes, mais il ne faut pas oublier les registres archéologiques. La syphilis est une maladie de type tréponématose, due à la bactérie Tréponema pallidum, ou plus simplement Tréponème pâle, mais d'autres variants existent. Ce type de maladie, à leur stade avancé, laisse des traces spécifiques sur le corps. Elle nécrose les os, en particulier du crâne et des tibias, ce qui permet aux paléopathologistes d'établir un diagnostic. Cette démarche est bien sûr très intéressante, mais échoue malheureusement à nous donner des réponses précises. Et c'est là qu'entre en jeu la paléogénétique, puisque nous disposons depuis quelques dizaines d'années de nouveaux outils de microbiologie comme la PCR, rendue célèbre par l'épisode de Covid. Et justement, une nouvelle étude parue dans Nature a cherché des traces de tréponématose en Amérique centrale et du Sud, datant d'avant l'arrivée des Européens. Ils ont découvert ces bactéries chez 5 individus et en ont séquencé les génomes avant de les comparer à leur base de données génétiques.
Il y a deux choses. La première chose, c'est qu'ils trouvent une diversité génétique de souches qui peuvent être comparées à des souches actuelles et aussi des souches qui sont anciennes et qui ont disparu. Et ils peuvent donc proposer des dates d'émergence à partir d'un tronc commun. Et ils situent un tronc commun, alors en Amérique, hein, aux environs de 5000 avant notre ère, et ensuite une divergence des souches, que ça soit les souches actuelles de tréponème de la syphilis ou de tréponème des deux autres tréponématoses, aux environs de 3000 ans avant notre ère. Voilà. Alors, du coup, certains vont se dire, voilà, la syphilis a émergé il y a 3000 ans en Amérique. C'est quand même plus compliqué que ça, parce que il y a d'autres papiers qui ont montré qu'il y avait quelque part aussi la même diversité génétique en Europe et une diversité génétique aussi précolombienne. Donc, finalement, ça ne résout pas le problème de l'origine ou pas américaine de la syphilis.
Des résultats qui sont nuancés par les auteurs eux-mêmes, puisqu'ils n'ont été obtenus qu'à partir de 5 individus présentant une bactérie de type tréponème, dont seulement 2 étaient véritablement bien conservés. Ces résultats restent néanmoins une prouesse technique et ils démontrent une diversité ancienne des bactéries tréponèmes aux Amériques. Mais une telle diversité existait également en Europe et en Afrique. Alors, la souche actuelle de tréponème pâle a-t-elle muté dans l'ancien ou le nouveau monde? La question demeure ouverte, mais les scientifiques s'approchent de la réponse. Et ces questionnements, bien qu'ils soient très fondamentaux, pourraient avoir des conséquences concrètes en termes de santé publique. La syphilis, qui avait beaucoup diminué au cours du XXe siècle, fait son grand retour. Et connaître l'histoire de ces mutations passées pourrait nous donner des indices sur ces dynamiques épidémiologiques pour mieux nous en prémunir.
Merci beaucoup Alexandre Morales. On vous retrouve demain pour votre prochaine chronique avec Science. Un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD. À la technique aujourd'hui, c'était Dalil Yara. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve bientôt dans la Science CQFD. En attendant, gardez le bon cap. Il y a toujours une terre de science en vue.